Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la Minute de l'Adil avec aujourd'hui une question sur la déclaration d'impôt et c'est Héloïse Coste, directrice et juriste de l'Adil qui vous répond. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Alors la question, bonjour, en 2016 j'ai loué pour la première fois un logement en location et je ne sais pas comment je dois procéder pour le déclarer aux impôts.
Alors effectivement, c'est une question qui nous est posée fréquemment à l'Adil. Quand on commence à louer un logement, ben, on ne sait pas forcément comment déclarer ses loyers. Alors déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut les déclarer. Il vaut mieux le dire.
C'est important.
Voilà, donc les loyers perçus doivent être déclarés à l'administration fiscale au moment de la déclaration annuelle des revenus. Donc on est un peu dedans, là, c'est un peu la période, avril-mai. Donc ensuite, il y a plusieurs méthodes, entre guillemets, plusieurs régimes d'imposition donc, qui dépendent en fait du montant des loyers perçus. Donc si le revenu brut foncier, alors qu'est-ce que c'est ce gros mot ? C'est les loyers qu'on a perçus. Donc si les loyers perçus sont inférieurs à 15 000 euros par an. Donc ça fait déjà effectivement...
C'est déjà une somme conséquente.
Une somme conséquente, mais si effectivement on loue plusieurs logements... On peut être au-dessus de cette somme. Bon. Si on est en dessous de 15 000 euros par an, on va être automatiquement dans le régime qu'on appelle le micro-foncier. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple puisque c'est sur la déclaration de revenus 2042, donc la déclaration habituelle, hein, pré-remplie qu'on reçoit. C'est sur cette déclaration 2042 qu'on va inscrire le revenu brut encaissé, c'est-à-dire le montant des loyers encaissés du 1er janvier au 31 décembre. Et les services fiscaux appliqueront ensuite sur cette somme un abattement forfaitaire de 30%. Donc cet abattement de 30%, il est censé recouvrir l'ensemble des charges que le bailleur a eues sur le bien. Et on obtiendra ensuite le revenu net foncier, le revenu foncier net imposable, c'est-à-dire le montant qui va être ajouté aux autres revenus, salaires, retraites ou autres, et sur lequel on va être imposé en fonction de son taux marginal d'imposition. Voilà.
Il n'y a pas de différence entre meublé ou non meublé ?
Si.
Ah, on va y venir après, j'imagine.
Là, on parle des non meublés.
D'accord.
C'est effectivement une précision importante. Pour les meublés, c'est différent. Donc là, on est bien dans les locations non meublées. Si on a eu plus de 15 000 euros par an ou si on estime que même si on a eu moins de 15 000 euros, les charges qu'on a eues sur le bien sont supérieures à ce taux de 30%, à ce moment-là, il faut opter pour le régime réel. Donc là, le régime réel, on va soustraire des loyers encaissés, du revenu brut foncier, les charges déductibles, de façon à calculer le revenu foncier net imposable. Il faudra dans ce cas-là remplir une déclaration spécifique, la 2044, et reporter ensuite le résultat final sur la déclaration 2042. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire des loyers encaissés ? Donc, c'est prévu, bien sûr, par l'administration fiscale. On va pouvoir déduire les frais de gestion et d'administration. Donc, par exemple, si on a confié la gestion du bien à une agence immobilière, on va pouvoir déduire ces frais-là. On va pouvoir déduire également un montant forfaitaire de 20 euros qui représente les autres frais de gestion, les frais d'envoi de quittance, etc. Les primes d'assurance, que ce soit la prime propriétaire non occupant ou l'éventuelle assurance loyer impayé qu'on aurait pu souscrire. L'ensemble des travaux de réparation et d'entretien, TTC. Les dépenses d'amélioration. Les intérêts d'emprunt et les frais liés à l'emprunt, notamment l'assurance emprunteur. Certains impôts, donc notamment le montant de la taxe foncière, déduction faite des ordures ménagères. Et on pourra en plus déduire éventuellement, si on est dans un dispositif spécifique, une déduction en plus. Donc là, ça va être notamment si on a conventionné le logement avec l'ANA, on va pouvoir déduire une déduction au titre du dispositif Borloo ancien, avant c'était le Besson ancien, l'Eurobien, etc. Il faut bien sûr, pour pouvoir déduire ces dépenses, qu'elles se rapportent au logement loué et qu'elles aient été payées pendant l'année. Donc, il faut regarder si c'est intéressant ou pas, si les charges payées représentent plus ou moins de 30% des loyers encaissés. Ça va être le cas notamment si on a un emprunt sur le bien. Et les premières années, les intérêts d'emprunt peuvent être importants. Donc, dans ce cas-là, il pourrait être plus intéressant d'opter pour le régime réel. Ou si on fait des travaux, notamment des travaux d'amélioration, des travaux d'isolation, des travaux d'entretien. Dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant d'opter pour le régime réel. Par contre, j'attire l'attention des auditeurs. Si on opte pour le régime réel alors que les loyers encaissés sont inférieurs à 15 000 euros par an, c'est une option pour 3 ans.
D'accord. Donc il faut faire très attention à ce qu'on déclare lors de la première année.
Il faut vérifier, même si c'est intéressant la première année, il faut vérifier qu'on ne perde pas l'intérêt sur les deux années suivantes. Donc par exemple, si on a un programme de travaux, ça peut être intéressant de le faire sur 2 années consécutives. Et parfois, on va avoir un tel programme de travaux qu'on va avoir, payer plus de travaux que ce qu'on a encaissé de loyer. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un déficit foncier. Donc, par exemple, si j'ai encaissé 10 000 euros de loyer et que j'envisage des travaux importants qui vont me coûter 15 000 euros, les 5 000 euros de différence, je pourrais, c'est ce qu'on appelle le déficit foncier, je pourrais le déduire en régime réel de mes autres revenus, salaire, retraite ou autre. Voilà, donc ça peut être intéressant.
D'accord. Il n'y a que 2 fourchettes, moins de 15 000, plus de 15 000 ?
Oui, en location non meublée, c'est vraiment ce seuil de 15 000 euros qui fait la différence. En meublé, c'est différent. J'en dis un petit mot, c'est un petit peu plus complexe, mais les loyers encaissés en location meublée, ça constitue des BIC ou des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Et là, il y a plusieurs régimes d'imposition. Il y a ce qu'on appelle le régime des micro-entreprises ou micro-BIC, auquel on va être automatiquement soumis si on a moins de... Alors moi, j'ai en tête 32 600 euros. Je crois que voilà, c'est à peu près ça, ou 32 700. Il faudrait que je le vérifie. Mais donc, si on a moins de 32 000 et quelques euros de BIC, on va être en micro-BIC. Et là, il y aura une déduction forfaitaire de 50%. Si on est au-delà ou sur option, on peut choisir effectivement le régime réel où on va déduire effectivement là aussi un certain nombre de charges.
On revient au non meublé. Est-ce qu'il y a un moyen, grâce à la DIL, est-ce que vous pouvez aider les personnes à choisir justement entre ces deux régimes, du micro-foncier et du régime réel ?
Alors, oui, effectivement. Déjà, en expliquant ce qu'il est possible de déduire, en faisant les calculs avec les propriétaires, on pourra effectivement les éclairer sur le choix à faire. Et puis, on a également un logiciel qui s'appelle Simuloc, qui a été développé par le réseau des ADIL et qui permet de faire vraiment une simulation chiffrée de l'impact sur la fiscalité du choix, effectivement, régime réel, micro-foncier, même éventuellement location meublée, non meublée. Donc, on a cet outil à disposition et on peut le mettre gratuitement à disposition et faire la simulation avec les particuliers. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir.
Voilà, ça permet concrètement de voir quel est le meilleur régime au final.
Tout à fait.
Merci Héloïse. On peut retrouver ces informations sur le site de l'ADIL dans la rubrique questions-réponses en podcast sur les deux sites internet 48FM et ADIL. Si vous souhaitez poser une question relative au logement afin qu'une juriste de l'ADIL y réponde dans cette émission, vous pouvez envoyer un mail à adil48@orange.fr. Également pour des conseils gratuits et personnalisés sur le logement, vous pouvez contacter l'ADIL au 04 66 49 36 65. 04 66 49 36 65. Ou par mail à adil48@orange.fr. En venant vous rencontrer, Amande, au 12 bis avenue Foch tous les jours, sauf
le vendredi après-midi.
Voilà, ou lors d'une de vos permanences tenues sur l'ensemble du territoire. À noter également que vous avez une page Facebook Adil de la Lozère. Merci Héloïse, à bientôt.
Merci, à bientôt.